campagne, bonjour. Nous allons résider cette semaine dans le département de la Loire et nous commençons par un coup de pouce au profit d'un projet, un grand projet, d'une reprise d'une ferme à Saint-Denis-sur-Coise. Sophie qui nous a alerté, on la remercie de cette installation agricole et socio-culturelle, sera prise en charge par le collectif de la Maladière. Le projet comporte trois volets, la ferme proprement dite, 11 hectares, 1500 m2 de stabulation, une maison d'habitation, pour une production de bio, de fruits, de légumes et de poulet de chair. L'association Pâte à Bonheur comprendra trois salles polyvalentes au profit d'actions socioculturelles. Et puis enfin, donc, la partie habitat partagé comprenant quatre appartements. Le projet est donc de taille. Il s'inscrit dans un programme de transition économique, sociale, écologique. Vous allez avoir un lien à nos pages avec le Facebook du collectif La Maladière. Cet exemple parmi d'autres... D'autres appels aux dons et au financement participatif répond à l'émergence, on les fait savoir et valoir quasiment quotidiennement, des innombrables projets en faveur du mieux vivre. Néanmoins, il existe en France un système de financement pour lequel des doutes ont été émis à une époque alors qu'il pourrait en toute transparence être profitable à des projets d'intérêt général. C'est le mécénat. Une association soutient le mécénat d'entreprise depuis longtemps, c'est Amical, présidé par François Debiès, membre du labo de l'ESS et invité de ses carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
François Debiès, bonjour.
Bonjour.
François, vous êtes président d'Amical. Depuis quelques années, Amical, association d'utilité publique qui développe la pratique en France du mécénat d'entreprise depuis 1979, c'est vos 40 ans, si j'ai bien calculé.
C'est nos 40 ans cette année. Il y a 40 ans, un monsieur qui était bien connu du monde des médias, qui s'appelait Jacques Rigaud,
oui.
Qui a été président de RTL pendant 20 ans, oui. A créé
Amical. Faut pas dire RTL à France Inter.
Pas de marque.
Pas de marque. Ah, je plaisante. Et alors, il y a eu un changement. On va parler quand même de ce mécénat d'entreprise dans une situation de crise actuelle, de remise en cause. Est-ce que ce mécénat d'entreprise, qui apparemment se porte bien, vous allez nous donner l'évaluation, hein, les modifications et la croissance de ce mécénat, est-ce qu'il permet de compenser une baisse des dotations publiques? Est-ce qu'il est... dépendant de la santé économique des entreprises ou non? Alors aujourd'hui, on peut dire, oui, la baisse des dotations, c'est évident. Mais est-ce que c'est une compensation de mécénat d'entreprise?
Alors, il y a plein de questions dans ce que vous dites. Hein. Oui. En fait, le mécénat, effectivement, a vu ses premiers balbutiements au début des années 80. À l'époque, Mitterrand, Jacques Lang, ont vraiment lancé le mécénat d'entreprise, notamment dans le domaine culturel. Le point d'orgue du travail de préparation juridique et fiscale a été la loi dite Ayagon, qui date de 2003, qui a posé un cadre juridique et fiscal qui est probablement, il faut le souligner, un des meilleurs au monde aujourd'hui. Mmh. Et si je souligne ça à ce point, c'est que ça me paraît quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement favorable face aux problématiques de société qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, en grand chiffre, le mécénat n'a cessé de se développer, sauf pendant la période de crise, et là vous avez tout à fait raison de le souligner, les crises économiques impactent le mécénat, notamment celui des entreprises de dimension petite et moyenne. Mmh. Et donc le nombre d'entreprises avait beaucoup baissé pendant la crise 2008-2010. En revanche, le volume a un peu moins baissé parce que les grandes entreprises ont résisté. Et puis c'est reparti après. Et aujourd'hui, le mécénat en France, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros. Qui viennent se comparer à peu près 4 milliards de philanthropie des particuliers. Hein. Mmh. 3,5 milliards pour les entreprises, 4 milliards pour les individus.
Et François Debiès, je note d'ailleurs que parmi les entreprises qui pratiquent le mécénat, à 81% sont de très grandes entreprises.
Alors, effectivement, la dominante à plus de 90%, c'est les petites, en nombre d'entreprises. Mmh. En revanche, en volume d'argent mis sur la table, les très grandes entreprises représentent pas 80, mais 57% du montant global. Donc, ces 3,5 milliards que j'évoquais tout à l'heure viennent à 57%, disons grosso modo, d'accord, du CAC 40 et des très grandes entreprises. Alors, en chiffre global, il n'y a que 9% des entreprises françaises qui font du mécénat. Donc, 91% n'en font pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai une conviction, c'est que l'avenir du mécénat, il est plus à Paris et dans les grandes entreprises du CAC 40. En revanche, il y a un potentiel immense en région, dans les entreprises de dimension petite ou moyenne. Et il se rajoute à ça un fait complémentaire, mais qui va aller dans la bonne direction. C'est que le mécénat est de plus en plus un facteur de création de lien territorial. Quand on regarde un peu quelle est la motivation d'une entreprise pour faire du mécénat et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, dans les années 80, ce que les entreprises recherchaient surtout, c'était un bénéfice d'image. Aujourd'hui, cet aspect-là est beaucoup passé en retrait parce que ça a été challengé sous l'angle du greenwashing, de l'opportunisme, etc., peut-être un peu à juste titre. Et aujourd'hui, ce qui intéresse les entreprises, c'est que le mécénat est un formidable créateur de liens. Ça permet à l'entreprise de créer des liens avec son écosystème, avec les collectivités publiques qui autrefois avaient du mal à parler avec le monde de l'entreprise et qui aujourd'hui sont très demandeuses de ce côté-là. Donc on a une véritable coopération, on va venir donc au public-privé que vous évoquiez, avec le monde associatif, que l'entreprise ne connaissait pas, voire méprisait un peu, avec même les concurrents, parce qu'aujourd'hui le mécénat est de plus en plus collectif, et sur un grand projet de société, eh bien on peut voir différentes entreprises mécènes se mettre côte à côte pour tirer un projet dans la bonne direction.
Et donc, ça dénote quoi, ce changement et cette évolution?
Ça dénote le fait que les entreprises ont aujourd'hui une conscience plus aiguë qu'autrefois de la responsabilité sociétale qu'elles peuvent jouer. Quand on regarde avec un tout petit peu de recul la société française d'aujourd'hui, c'est une société fracturée, faite de communautés qui s'ignorent quand elles ne se détestent pas et qui ont du mal en tout cas à travailler ensemble. Or, pour bien vivre ensemble, dans une société je pense comme dans un couple, eh bien il faut faire des choses ensemble. Et le mécénat permet justement de travailler ensemble sur des projets. Et donc, est-ce que le mécénat vient se substituer à ce que l'État n'est plus capable de faire? Je dirais non, c'est un complément qui vient, c'est une approche qui est différente, qui présente le gros avantage par rapport à l'argent public de pouvoir être innovant, parce que l'argent public, la puissance publique en est redevable par rapport à vous et moi, les contribuables, et donc ne peut pas prendre de risques. Et donc l'innovation n'est pas forcément facile pour le monde public, on le voit bien d'ailleurs en ce moment, dans toutes les réflexions qui sont menées, alors que le mécénat permet justement d'aller dans ces voies un peu inexplorées, de permettre probablement à la société de changer, et Dieu sait qu'elle a besoin de changer.
Merci de nous annoncer de bonnes nouvelles. François de Biesse, président d'Amical, invité des carnets de campagne avec nous sur France Inter pour parler de ce mécénat d'entreprise. Les chiffres sont très positifs, vous les citez, mais entre 2006 et 2016, le nombre d'entreprises ayant déduit des dons de l'impôt sur les sociétés au titre de mécénat a été multiplié par 2,5, passant de 28 000 à 73 500. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des entreprises qui ne déduisent rien, mais qui font du mécénat.
Absolument, il y en a pratiquement une sur deux.
C'est étonnant, ça.
Alors, c'est à la fois étonnant et pas étonnant. D'abord parce que la mécanique de défiscalisation est un peu lourde, un peu complexe, et que beaucoup de petites entreprises n'ont pas les moyens ou pas l'envie d'aller vers cette complexité.
Il faudrait la simplifier.
Alors, on pourrait la simplifier, mais il y a une chose très importante qui vient de se passer, dont Amical s'est beaucoup, beaucoup réjoui, parce qu'on s'était battu pour ça depuis des années. Dans la loi Ayagon, il y avait un plafond de mécénat défiscalisable à 0,5% du chiffre d'affaires. Alors, quand vous vous appelez Total ou BNP Paribas, 0,5% du chiffre d'affaires, c'est très, très haut, et d'ailleurs, ces grandes entreprises n'atteignent jamais ce plafond. En revanche, quand vous êtes une TPE, une start-up, eh ben les 0,5%, c'est une quasi-impossibilité de faire du mécénat parce que vous arrivez à 300 balles.
Enfin bon,
Et donc, on se battait depuis des années pour obtenir une franchise, le mot n'est pas très bon, mais de 10 000 euros pour tout le monde, en disant bah, tout le monde a droit à 10 000 euros de défiscalisation et les 0,5% rentrent en force au-delà. La loi de finances 2019 a accepté ça et donc maintenant, toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut faire de 10 000 euros de défiscalisation.
Alors, il y a une deuxième tâche, si vous permettez, et c'est la tâche qui vous revient, en tout cas que vous allez prendre en charge dès maintenant. C'est de mesurer l'impact de ce mécénat. Alors, c'est incroyable qu'on ne l'ait pas fait jusqu'à présent.
C'est un grand sujet. Alors, il faut dire que les choses évoluent progressivement. Le mécénat s'est beaucoup professionnalisé. Aujourd'hui, les mécènes ne sont plus dans une approche de donateur. Ils sont dans une approche d'investisseur. Et donc, aujourd'hui, dans les entreprises, ce souci de mesure d'impact, il est de plus en plus mis en œuvre. En revanche, ce qui manque, c'est une globalisation, de façon à donner, et notamment à la puissance publique, puisque c'est la puissance publique qui réfléchit, mais dans le fond, à quoi sert ce mécénat et ce renoncement que je fais à des recettes fiscales, est-ce qu'il est vraiment utile à la société? Alors là, effectivement, il y a besoin de compiler un petit peu ces différentes informations. C'est ce qu'Amical va commencer à faire. On va bâtir une étude qui, au long cours, servira à mesurer cet impact. Et cet impact, il est aujourd'hui extrêmement important.
Alors, les bénéficiaires sont les entreprises, les organismes qui relèvent du domaine du social, en premier, du domaine de la culture et du patrimoine, en deuxième, et en troisième, de l'éducation. Voilà. La santé vient un peu plus loin.
Alors, il y a eu un changement d'ailleurs à ce niveau-là. Pendant les 20 premières années du mécénat, c'est le domaine culturel qui venait en premier. La crise sociale qui a démarré en 2005 chez nous dans les banlieues a amené une prise de conscience de ce qu'il y avait des urgences dans notre société et qu'il fallait les prendre en compte. Les entrepreneurs aujourd'hui, probablement un peu poussé par la jeune génération de collaborateurs, a pris conscience qu'il fallait faire davantage de choses dans la société. L'entreprise a un rôle de structuration des personnes. personne plus important qui lui donne une capacité à intervenir de façon plus efficace dans la société. Et ça, je pense que c'est un mouvement irréversible. Donc oui, je pense que c'est souhaitable qu'on ouvre cet objet social à autre chose que l'intérêt des actionnaires, qu'on l'ouvre à l'intérêt général. Est-ce qu'il faut passer par un changement de la loi ? J'en sais rien, mais en tout cas, qu'on pousse les entreprises dans cette direction-là, c'est certainement une bonne chose.
Les entreprises à mission, ce serait ça ?
Les entreprises à mission, ça serait exactement ça. Alors, le mécénat, aujourd'hui, c'est une dépense sanctuarisée pour l'entreprise. Cette sanctuarisation, elle a un grand mérite, c'est qu'elle permet une utilisation spécifique de l'argent, alors que si on faisait disparaître le mécénat et qu'on disait, bon, ben, l'entreprise, elle peut faire des dépenses d'intérêt général complètement banalisées par rapport aux autres dépenses, je pense que ça serait un très grand risque, parce que, en cas de crise, bah, les premières dépenses qui sauteraient, ça serait celle-là. Hein, alors que on a bien vu, notamment dans les entreprises moyennes ou grandes, que malgré la crise, le mécénat a survécu parce que son objet, son intérêt était important pour l'entreprise. Et puis parce que ces dépenses de mécénat, elles permettent de l'innovation, elles permettent d'aller sur des causes sociales abandonnées, la grande dépendance, la santé mentale, les droits de l'homme, les prisons... les réfugiés, bon, tout ça, ce sont des sujets qui font peur et sur lesquels l'entreprise n'ira pas naturellement. Alors que le mécénat permet de le faire justement parce qu'il y a une réflexion sur à quoi sert ma dépense qui est différente de ce qu'elle serait si la dépense était complètement banalisée. Et puis il reste bien sûr les grandes crises humanitaires, les tremblements de terre, etc. pour lesquels le mécénat est indispensable.
Bon, il nous reste à convaincre 91% des entreprises françaises à pratiquer le mécénat.
Absolument, c'est ce que Admical a commencé à faire. On a lancé, depuis deux ans, on fait un tour de France des mécènes où on va faire un travail d'évangélisation, si vous me passez l'expression, auprès de chefs d'entreprise pour leur expliquer que le mécénat, c'est bien pour la société, ça ils le savent, mais que c'est bien pour l'entreprise aussi. Et que ça va lui permettre justement, à travers cette création de liens que j'évoquais tout à l'heure, une meilleure intégration dans son territoire, une meilleure intégration dans la société française et un rôle finalement qui sera satisfaisant pour tout le monde et notamment pour les collaborateurs de l'entreprise.
Bon, j'espère que ce chemin ne sera pas un chemin de croix pour vous, François Debiès.
En tout cas, on est prêt à le faire avec enthousiasme et avec flamme.
Admical.org pour l'adresse et puis le labo, je rappelle, c'est le labo tradeunionss.org. Merci.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Un petit salut rapide à Audrey Morgan dans le Haut-Rhin. Ils ont donné naissance à une plateforme qui mériterait d'afficher complet. Elle s'appelle les Jardins de Poucault. Le principe, c'est que les propriétaires de jardins peuvent ouvrir leur espace aux jardiniers sans jardin. C'est très simple. Vous allez trouver les liens à nos pages d'émission.